Lettres étrangères. Sylvain Bourmeau. Aujourd'hui, Enrique Villamatas.
Bonjour à tous et merci d'être là pour cette rencontre de ce festival. Je voudrais saluer aujourd'hui Anne de Boissy qui va lire deux textes d'Enrique Villamatas. Enrique Villamatas qui sera traduit par ailleurs par Georges Tiras. Quand il a été question de faire cette rencontre à Lyon ou à Brome, enfin disons autour de Lyon, avec Enrique Villamatas, je me suis souvenu, parce qu'il va être question de souvenirs littéraires aussi dans cette rencontre, je me suis souvenu que j'avais lu il y a quelque temps un texte d'Enrique Villamatas qui commence comme ça. « Je suis allé à Lyon parce qu'une organisation nommée Villa Fondébridère m'avait invité à participer à une causerie sur les relations entre la fiction et la réalité programmée dans des rencontres internationales de littérature. » J'ai accepté parce que je n'y étais jamais allé et que j'avais envie de connaître cette ville. En plus, participaient à ce symposium John Banville et Rick Moody, deux de mes écrivains préférés. Quant aux relations entre la fiction et la réalité, sujet de plus en plus rebattu, j'avais déjà écrit sur ce thème un nombre infini de fois, sous les formes les plus variées, il me semblait que le temps était arrivé de définir une bonne fois pour toutes, malgré ma méfiance, une position ferme. Alors ce texte auquel j'ai pensé, qui s'appelle « Perdre des théories », qui a paru en 2010 aux éditions Bourgois, l'éditeur historique d'Enrique Villamatas, qui a publié pratiquement tous ses livres en français, m'a semblé faire évidemment écho, et j'avais envie qu'on commence cette conversation, Enrique Villamatas, par cette question théorique, puisqu'il s'est agi pour vous, esselé à la sortie de l'aéroport, vous retrouvant dans cette chambre d'hôtel, de mettre au point, finalement, à la hâte, une théorie générale de la littérature que vous vous empresserez d'oublier, comme pour mieux vous en libérer, et régler une fois pour toutes cette question de la fin de la littérature. Alors j'avais envie qu'on commence par la fin, d'une certaine façon, aujourd'hui, par cette question de la fin de la littérature qui vous hante depuis vos débuts, en quelque sorte, Enrique Villamatas.
Buenos días, bonjour. Hacía años que deseaba vivir una aventura como la que viví en Lyon hace unos años cuando llegué a Lyon.
C'était des années que j'avais très envie de vivre une aventure comme celle que j'ai vécue à Lyon lorsque j'y suis arrivé il y a quelques années.
Que consistía en reproducir en la vida lo que había escrito Julian Gracq en un cuento que en cine se llama Rendez-vous à vrai.
Qui consistait à vivre dans la réalité ce que dans la littérature avait écrit Julien Gracq dans un récit qui s'intitule Rendez-vous à Avray.
Es un cuento de Julien Gracq qui s'appelle La Presqu'île.
C'est un récit de Julien Gracq qui s'appelle La Presqu'île.
Un hombre joven acude a un castillo al que le ha invitado su amigo durante la Primera Guerra.
Un homme jeune se rend dans un château où ses amis l'ont invité après la guerre.
Pero cuando llega al castillo, el quien l'a invitado no está.
Mais lorsqu'il arrive au château, celui qui l'a invité n'est pas là.
Va al castillo y vuelve a París.
Il se rend au château et puis ensuite il rentre à Paris.
Prácticamente no sucede nada más.
Et pratiquement il ne se passe rien de plus dans ce récit.
Mi viaje a Lyon fue prácticamente igual.
Et mon voyage à Lyon s'est déroulé à peu près de la même façon.
En parte porque yo busqué que fuera que ocurriera así.
Et en partie parce que j'ai recherché que cela se passe de cette façon-là.
Porque es cierto que fui recibido por un taxista extraño.
La vérité c'est que j'ai été reçu par un chauffeur de taxi assez étrange.
Es cierto que durante 5 horas nadie preguntó por mí en el hotel des artistes.
La vérité c'est que pendant 5 heures d'affilée personne ne s'est intéressé à mon sort à l'hôtel.
Y después cuando vi que podía vivir la aventura de Julien Gracq.
Et ensuite lorsque je me suis rendu compte que je pouvais vivre l'aventure de Julien Gracq,
dentro del hotel me escondía de modo que no me vieran para poder huir.
Dans l'hôtel je me cachais de façon qu'on ne puisse pas me retrouver pour prendre la fuite.
Y lo logré, lo conseguí.
Et j'y suis parvenu.
Volví a Barcelona en un tren.
Je suis rentré à Barcelone en train.
Y conté el viaje a Lyon, que s'appelle Perdre la théorie, no?
Et j'ai raconté ce voyage à Lyon dans un récit qui s'appelle Perdre la théorie.
En el tiempo de la espera, porque todo el viaje fue una larga espera.
Durant le temps de l'attente, parce que tout ce voyage fut une longue attente.
Al igual que los libros de Julien Gracq.
De la même façon que dans les livres de Julien Gracq.
Pude pensar.
J'ai pu penser.
Y pude escribir también.
Et j'ai pu écrire également.
Tuve tiempo para pensar, escribir una teoría general sobre la literatura.
J'ai eu le temps de penser et d'écrire une théorie générale sur la littérature.
Cuando volví a Barcelona,
lorsque je suis entré à Barcelone,
rompí la teoría.
J'ai déchiré la théorie.
Porque pensé que hay muchas teorías y ninguna es la verdadera.
Parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup de théories et qu'aucune n'est la véritable.
Entonces no fue un viaje perdido a Lyon porque fue un viaje en el que pude perder una teoría.
Donc ça n'a pas été un voyage perdu, ce voyage à Lyon, ça a été un voyage durant lequel j'ai pu perdre une théorie.
Después de Assises du Roman, que es la organización de Lyon que me invitó.
Après les Assises du Roman, qui est l'organisation lyonnaise qui m'avait invité.
Muy amables, me han vuelto a invitar en otras ocasiones.
Avec une grande amabilité, ils m'ont invité de nouveau pour une autre occasion.
Pero yo no he ido porque tengo miedo.
Mais je ne suis pas allé parce que j'ai peur maintenant.
Rassurez-vous, Enrique Villamatas, vous êtes à Bron. Ce qui n'est pas tout à fait Lyon. Et donc, je crois qu'on l'a compris avec cette histoire, un petit peu, des choses sur votre rapport à la littérature, qui est probablement celui d'une expérience sans cesse renouvelée. Et je crois que votre œuvre, démarrée au début des années 70, vous êtes né en 1948, et le témoignage de ce rapport complexe qui est fait à la fois d'héritage extraordinairement présent et de déshéritage, pour reprendre la belle formule de Vincent Kaufmann, littéraire, de manière de couper, de rompre, et cette façon aussi probablement de se sentir requis par le contemporain. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être écrivain aujourd'hui, compte tenu de ces héritages, qu'il ne s'agit pas de refuser, mais qu'il ne s'agit pas non plus de se laisser, en quelque sorte, écraser par ces héritages. Est-ce que c'est cette problématique qui vous amène à renouveler sans cesse ces expériences littéraires?
Hay la sensación de que escribir es repetir lo que ya se ha escrito.
Il y a la sensation que écrire, c'est déjà répéter ce qui a déjà été écrit.
Y yo trabajo sobre la repetición.
Et je travaille sur la répétition.
Pero una repetición creativa.
Mais c'est une répétition créative.
Es decir, prescindo de las tramas que han sido siempre las mismas.
C'est-à-dire que je me passe des trames qui ont été toujours les mêmes.
Siempre hay seis o siete historias únicamente, en realidad, que, para contar.
En réalité, il y a six ou sept histoires à raconter, pas davantage.
Un hombre y una mujer se conocen, uno de los dos deja al otro, y el otro queda triste y...
Un homme et une femme se rencontrent, ils sortent ensemble, l'un des deux abandonne l'autre, l'autre reste empreint de tristesse.
Una persona hace un daño a otra y la otra se venga. La venganza es un tema.
Une personne fait du mal à une autre personne, cette personne se venge parce que la vengeance est un thème.
Etc. Hay una serie de temas. Más que la trama, me interesa renovar la forma de contarlo.
Etc. Donc il y a une quantité d'histoires, mais plus que la trame, ce qui m'intéresse, c'est de renouveler la façon de raconter l'histoire.
En définitive, la historia de la literatura es la repetición creativa de lo que se ha olvidado, para decirlo de otra forma.
En réalité, la littérature, c'est la répétition créative de ce qui a été dit et qui s'oublie, pour le redire d'une autre façon.
En realidad, yo voy en busca de algo que es difícil y es imposible de encontrar, que sería el cuento original.
En réalité, je suis à la poursuite de quelque chose qu'il est difficile et même impossible de trouver, qui serait le récit original.
El mito de origen.
Le mythe des origines.
Es buscar las fuentes del relato. ¿Quién fue el primero que contó una historia?
Rechercher les sources du récit. Qui a été le premier à raconter une histoire?
Quizás la contó un pintor, ¿no? En las cuevas de Altamira.
Il est possible que ce soit un peintre qui l'ait raconté dans les grottes d'Altamira.
Dibujó los animales y a continuación explicó una historia.
Il a dessiné des animaux sur les murs et puis il a avec ça raconté une histoire ensuite.
Entonces la pintura, la imagen sería anterior a la escritura.
Et donc l'image serait antérieure à l'écriture.
Eso significa que ahora que estamos en un grandissimo auge de la imagen.
Ce qui signifie que de nos jours, alors que nous sommes dans une période d'expansion extraordinaire de l'image,
puede terminar en un, digamos en 100 años, 200, en una fatiga tal de la imagen que reaparezca la palabra.
Cela peut terminer d'ici 100 ans, 200 ans, sur une fatigue, une lassitude telle face à l'image que l'on assisterait au retour de la parole.
Son demasiados años para nosotros, pero lo soportaremos.
Ça fait trop d'années, bien sûr, pour nous, mais on va le supporter.
Vous avez commencé à publier vos livres au début des années 70, donc ça fait maintenant plus de 45 ans que vous publiez des livres. Certes, 45 ans, c'est peu au regard de l'histoire littéraire qui vous intéresse, mais malgré tout, c'est une période conséquente maintenant. Quel regard rétrospectif vous portez sur cette période ? Comment avez-vous vu la littérature en général, celle qui vous intéresse, celle que vous lisez, évoluer depuis le début des années 70 ?
Muchos años, 40 años, es una historia muy larga.
Ça fait beaucoup d'années, ça, 40 ans, c'est une histoire longue.
Empecé a escribir por casualidad, prácticamente por un error.
J'ai commencé à écrire par hasard, pratiquement même par erreur.
Empecé a escribir a los 12 años para huir de mi familia.
J'ai commencé à écrire à 12 ans pour fuir ma famille.
Quería evitar los veranos en la playa.
Je voulais éviter les étés sur la plage.
Y inventé que me gustaba leer y escribir.
Et j'ai donc inventé que j'aimais lire et écrire.
Me permitían no estar en la playa, sino a la sombra de un pino.
Et donc on me permettait de rester non pas sur la plage même, mais à l'ombre d'un pin.
Eso me permitía estar solo, a veces simulando que leía. Mis hermanas dicen que leía los libros al revés, que era la prueba de que no leía.
Et donc ça me permettait de rester seul et de lire, ou plutôt de faire semblant que je lisais. D'ailleurs, mes sœurs m'accusaient de lire les livres à l'envers.
De todo esto deduzco que fui a la literatura para quedarme solo.
Et je déduis donc de tout ça qu'en fait j'ai fait de la littérature en réalité pour rester seul.
Me alejé del mundo familiar para comentar el mundo familiar por escrito.
Je me suis éloigné du monde familial pour commenter ce qu'est le monde familial par écrit.
No deja de ser lo mismo que ocurre después cuando empiezo a escribir más en serio.
Je fais la même chose ensuite lorsque je me suis mis à écrire de façon sérieuse.
Me aparto del mundo mundial para comentar el mundo en la soledad.
Je m'écarte, je m'abstrais du monde pour commenter ce qu'est le monde.
Hay una contradicción entre escribir en soledad y el mundo, porque o estás en un lugar o estás en el otro.
Il y a une contradiction entre écrire et être dans le monde, parce que ou tu es dans l'un ou tu es dans l'autre. Tu ne peux pas être dans les deux.
Fue una estrategia en definitiva para que me dejaran tranquilo.
Et en définitive, ça a été une stratégie pour qu'on me laisse tranquille.
Y así continúa siendo ahora.
Et ça continue à être ainsi actuellement.
Con la diferencia de que en ocasiones tengo que hablar en público, en ocasiones tengo que ser visto en mi ciudad para que sepan que vivo y existo.
Avec cette différence que actuellement il m'arrive de devoir parler en public pour que l'on constate que j'existe effectivement, que je suis bien vivant.
Con el tiempo he aprendido a pasarlo extraordinariamente bien en el escritorio, en el despacho.
Avec le temps, j'ai appris à être extraordinairement bien dans mon cabinet de travail, dans mon bureau.
Y a ser un apasionado tanto de la lectura como de la escritura.
Et à être quelqu'un de passionné autant de la lecture que de l'écriture.
Cuando me preguntan, me dicen que recomiende a las personas que no leen que han de leer.
Lorsqu'on me demande un conseil de lecture,
no digo nada, no recomiendo nada, porque
je me tais, je ne recommande rien.
No tengo interés en ayudarlas.
Parce que ça ne m'intéresse pas d'aider les gens.
Vous dites qu'il vous arrive de parler en public comme aujourd'hui pour montrer que vous êtes bien dans notre monde. Vous avez même à plusieurs reprises insisté sur le fait que pour vous, donner des conférences, qui est une figure assez présente dans vos écrits, ou donner des entretiens et des entretiens en public, c'est un acte littéraire. Ça fait partie de la littérature. C'est pas à côté de la littérature, c'est pas de la paralittérature.
Las conferencias, los actos públicos, todos los he convertido en una prolongación de mi propio trabajo y de mi propio bureau de trabajo, de despacho, ¿no?
J'ai converti les conférences et les rencontres en public en une sorte de prolongation de mon propre travail d'écrivain.
Nunca son un momento de transición, un momento funcional.
Elles ne sont jamais un moment de transition, un moment fonctionnel.
En cualquier momento puede surgir un hecho o una pregunta a algo que jamás haya oído o experimentado.
Il peut toujours, quel que soit le moment, surgir un fait, une question qui n'a jamais été abordée auparavant.
Y que pueda pasar a formar parte de mi trabajo.
Et qui pourrait devenir une partie même de mon travail.
Cuando hablo en público es como si estuviera trabajando en mi estudio.
Lorsque je parle en public, c'est comme si j'étais en train de travailler dans mon cabinet de travail.
En todo tiempo escribo, de alguna forma es así.
Quelles que soient les circonstances, à tout moment, j'écris en fait.
Je vous ai bien entendu, Enrique Villamatas, je ne vais pas vous demander des conseils de lecture, mais je voudrais vous demander, puisque dans ce cabinet de travail dont vous parliez, vous faites ces deux choses concomitamment, écrire et lire, et que la lecture est une activité extraordinairement importante pour vous. Est-ce que vous lisez principalement des textes classiques de la littérature qui sont très présents dans vos livres, évidemment Joyce, Benjamin, Walzer, on va pas tous les citer, on reviendra peut-être sur certains noms au cours de cet entretien, ou est-ce que vous avez une curiosité très grande pour ceux qui sont vos contemporains, et là aussi on trouve dans vos livres des références à Antonio Tabucchi, à Bernardo Echaga, à Ricardo Piglia, à bien d'autres auteurs contemporains qui vous intéressent également. Comment vous faites la part des choses? Est-ce que vous faites attention à laisser un peu de temps pour la littérature la plus contemporaine?
Sí, leo los clásicos, pero del siglo XIX y XX y actuales, no anteriores al XIX. En general, son clásicos contemporáneos.
Oui, mais je lis les classiques, effectivement, mais les classiques du 19e, 20e siècle et actuels. C'est-à-dire, je lis les classiques contemporains, en fait, pas antérieurs au 19e siècle.
Hay una idea de estar en diálogo, como llamaba Quevedo, diálogo con los muertos.
Il y a derrière tout cela l'idée d'être en dialogue, comme le disait Quevedo, en dialogue avec les morts.
Las lecturas inciden en lo que escribo. Pueden ser también experiencias que se convierten en escritura.
Les lectures sont incidentes sur ce que j'écris. Elles peuvent se constituer en expériences qui débouchent sur l'écriture.
Leo modificando. Todo lo que leo lo modifico en el momento mismo de leerlo.
Je lis en modifiant. C'est-à-dire que tout ce que je lis, je le modifie au moment même de la lecture.
Y por tanto, reproduzco un poco lo que es la historia de la literatura, donde se va leyendo. Cada lector lee diferente y la literatura avanza hacia algo insospechado a través de la modificación de lo que se lee.
Et donc je reproduis le mécanisme de la lecture, c'est-à-dire que chaque lecteur recrée l'histoire de la littérature et il y a une modification qui se fait au fur et à mesure des différentes lectures.
Hago lo mismo con la televisión. Veo televisión, por ejemplo.
Je fais la même chose avec la télévision, puisque je regarde... Par exemple,
le journal de notices, non?
Je regarde les informations.
Y ninguna información la escucho y veo como pretenden que la escuche y la vea.
Et je ne reçois aucune information comme on prétend à la télévision qu'on la reçoive.
Recibo la información, pero estoy en ese momento leyendo lo que hay detrás de la información. ¿Por qué aquella noticia? ¿Qué interés hay detrás de la misma? ¿Por qué es manipulada?
Je reçois cette information en essayant en même temps de voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi cette information, qu'est-ce qu'il y a comme manipulation derrière, etc.
Veo una pintura y modifico la pintura visual yo mismo, pensando cómo podría ser también en lugar de ser como es.
Si je regarde un tableau, une peinture, je la regarde également en modifiant, en essayant de voir comment elle aurait pu être par ailleurs, comment elle est derrière, en quelque sorte.
Entonces cuento esto porque es mi forma de trabajar. Trabajo modificando aquello que he leído y modificando incluso lo que yo he escrito la noche anterior.
Je raconte ça parce que c'est ma façon de travailler. J'écris en modifiant sans cesse, y compris en modifiant ce que j'ai écrit le jour antérieur ou la nuit antérieure.
Entonces trato de repetir, pero sin repetir nada, porque lo que repito es algo que es distinto.
Et donc j'essaie de répéter sans répéter, parce que ce que je fais est toujours différent de ce qui a été fait antérieurement.
Así creo que han obrado los escritores, consciente o inconscientemente, siempre.
Et c'est un travail d'écrivain que je pratique constamment et consciemment.
Non, que les escritores han trabajado así siempre, consciente
o inconscientemente. Les écrivains ont toujours travaillé de cette façon-là.
Alors peut-être on va se rendre compte de ce mode de travail avec la lecture d'un texte qui parle beaucoup de votre rapport à l'histoire de la littérature, Souvenir inventé, qui est un texte de 1994 qu'on trouve dans un recueil de récits titré La Modestie et qui a paru cet automne aux éditions Christian Bourgois. C'est Anne de Boissy qui nous lit ses souvenirs inventés.
1. Je me souviens que lors de mon voyage aux Açores, je suis entrée dans le Peter's Bar de Horta, un café fréquenté par les baleiniers, à la fois taverne, lieu de rencontre, agence d'information et bureau de poste. Le Peter's Bar a fini par devenir le destinataire de messages précaires et bienvenus qui sinon n'auraient échoué nulle part. Au grand panneau de bois du Peter's étaient fixés des petits mots, des télégrammes, des lettres attendant que quelqu'un vienne les réclamer. J'y ai trouvé une mystérieuse suite de messages, de voix apparemment très liées entre elles parce que procédant du monde des petits malentendus sans importance d'Antonio Tabucchi. Voix qui semblait lui rendre hommage en voyageant de concert, en voyageant dans une caravane imaginaire de souvenirs inventés. Voix charriée par quelque chose, impossible de dire quoi. Mais je n'hésite pas à les convoquer de nouveau ici. 2. Je suis à la tête de cette expédition à laquelle il nous est tous arrivé de rêver, et parmi mes souvenirs, j'ai entendu l'écrivain italien Antonio Tabucchi dire que, dans une certaine mesure, la littérature est comme le message de la bouteille, ou les messages de ce panneau de taverne, car elle aussi dépend d'un récepteur. En effet, comme nous savons que quelqu'un, une personne indéterminée, lira notre message de naufragé, nous savons que quelqu'un lira notre écrit littéraire, quelqu'un qui, plus que destinataire, sera complice dans la mesure où ce sera forcément cette personne qui conférera un sens à l'écrit. Ce qui permet à chaque message d'avoir toujours des rajouts, de nouvelles significations, de croître, d'entrer en résonance. Et c'est précisément ce que la littérature a d'étrange et de fascinant. Ne pas être un organisme statique, mais quelque chose qui, à chaque lecture, est sujet à des mutations, se modifie constamment. 4. Feu. Je désire mettre le feu à ce triste panneau. Ce sera la vengeance de celui qui se rappelle avoir passé sa vie à chercher en vain, à l'image de Borges dans un poème sur le tigre, l'autre tigre. Au-delà des mots, j'ai toujours cherché l'autre tigre, celui qui se trouve dans la forêt et non pas dans le verre. Ma vie en a été totalement détruite. Feu. 6. Je me souviens d'avoir toujours pensé que la vie n'existe pas en soi, parce que si on ne la raconte pas, on n'en fait pas le récit. Cette vie est simplement quelque chose qui s'écoule, mais rien de plus. Pour la comprendre, il faut la raconter, ne serait-ce qu'à soi-même. Ce qui ne signifie pas que la narration permette une compréhension en bonne et due forme, car il reste toujours des vides qu'elle ne comble pas en dépit des sutures ou des reprises qu'elle s'efforce d'appliquer. C'est pourquoi la narration ne restitue la vie que par fragments. 8. J'étais l'ombre de Tabucchi. En d'autres temps, j'étais attirée par l'idée de devenir un regard extérieur à moi-même, être en dehors de moi et regarder, comme faisait Pessoa. Devenir donc un fantôme, une manière de voir, un regard étranger, comme Tabucchi qui était l'ombre de Pessoa. Maintenant, quand je me souviens de ces jours, me revient en mémoire ce que disait Pepe Bergamin de lui-même. « Je ne suis qu'une ombre. » 9. Comme dans ma vie, il ne m'est rien arrivé de mémorable, j'étais un homme pratiquement sans biographie. Jusqu'au jour où j'ai choisi de m'en inventer une. Je me suis réfugiée dans l'univers de divers écrivains et j'ai forgé, à l'aide de souvenirs de personnes qui m'apparaissaient liées à leurs livres ou à leur imagination, une mémoire personnelle et une nouvelle identité. J'ai considéré comme mien les souvenirs d'autres, et c'est ainsi qu'aujourd'hui je peux me glorifier d'avoir eu une vie. Mais après tout, n'est-ce pas ce que tout le monde fait ? Ma vie n'est qu'une biographie semblable à celle de tout le monde, construite à partir de souvenirs inventés. 10. Je ne veux pas de date. Je vous prie de ne pas mettre d'inscription sur la stèle, seulement le prénom, non pas Ettore, mais celui avec lequel je signe cette lettre et qui n'est autre que Joséphine. 12. Si je me souviens que je suis Pessoa, il ne me reste alors plus que l'envie de dire que je suis partagée entre la loyauté que je dois au bureau de tabac d'en face en tant qu'élément réel de l'extérieur et le sentiment que tout est songe en tant qu'élément réel de l'intérieur. 13. Je me souviens des jours que j'ai passé à lire, soir après soir avant de m'endormir, une histoire de solitude où tout était désespoir et paradoxalement, je. Quelque chose de semblable, je crois, à ce qui arrive au message de ce panneau quand la nuit tombe sur eux, sur nous. Nous nous sentons alors tous très étranges et nous mettons à rire comme si, perturbés, nous étions en train de jouer. 15. Je me souviens que ce fut par pur hasard, alors que, très jeune, je me promenais dans les rues de Paris rêvant de vie terrible et autres noirceurs. J'ai acheté un petit livre intitulé « Bureau de tabac ». Dans la soirée, je l'ai lu dans le train pour l'Italie qui me ramenait chez moi. Très impressionnée, j'ai éprouvé le désir immédiat d'apprendre le portugais. 16. En d'autres temps, je voyageais beaucoup en train où tout n'était pas aussi paisible que maintenant où je voyage dans cette chaude caravane de sourires fugitifs et d'exaltation de la dispersion. Je me souviens d'avoir marché en ce temps-là sur des terres de fièvre et d'aventure. Je me souviens d'être allée en Inde, l'endroit idéal pour se perdre. Je cherchais un ami disparu, ombre d'ombre du passé le plus enfoui. Bombay, Goa, Madras m'ont vu passer en quête de l'aspect nocturne et caché des choses. Mais pour moi, l'Orient est toujours un lieu inconnu. J'y suis allée, mais je n'ai rien compris. Barbare en Asie, étranger dans ma propre terre et, comme si c'était trop peu, soupçonnant que l'univers est une prison de laquelle jamais, jamais on ne sort ni ne sortira. 17. Je me suis échappée d'un livre d'Alvaro Motis, mais je répète certaines choses que je m'y demandais. Qui a convoqué ici ces personnages ? D'où sont-ils et vers où les oriente le destin anonyme qui les conduit à défiler devant nous ? Leurs souvenirs inventés s'estomperont-ils un jour dans le pieux néant qui nous hébergera forcément tous ? 18. Je me suis échappée de l'asile de fous. Oui, je m'en suis échappée. Pourtant, je passais du bon temps en écrivant des romans entre ces murs. Avec mon vol déchiré, j'accompagne maintenant cette expédition. Je crie comme une mouette blessée. Je suis une mouette. Je suis cette mouette qui espionnait l'espion Spino sur la ligne même de l'horizon d'un livre inoubliable. On dit que je suis folle. C'est parce que je dis que le livre est inoubliable. Pourtant, j'ai tout oublié de lui, sauf le souvenir d'une phrase, celui d'une question. Qu'invente son imagination qui se présente comme un souvenir ? Je ne me souviens que de cette phrase du livre de cet écrivain de Pise qui donne son nom à cette caravane que patiemment je survole et protège. Et même si je crie et suis la mouette, je ne suis pas folle. 19. Je me souviens qu'après le repas, Valérie m'a rendu visite à la maison pour aller faire une promenade. Pendant que je me préparais, il a pris l'une de mes feuilles de papier et a écrit « Conte ». Il était une fois un écrivain qui écrivait. Valérie. 20. Moi aussi, je m'applique à rêver la vie qui leur fera le plus peur. Moi aussi, je ne suis qu'une ombre. On m'appelle Javier Janata Pinto. J'ai achevé ma journée, je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons, les éclats perdus me tanneront, nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte, j'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes, retour des pays chauds. 21. Je me souviens d'avoir été le barman qui, à Lisbonne, avait inventé le cocktail Ranelas Verdes Dream, mais je dirais que j'ai été aussi ce personnage qui, à force de s'inventer un passé, comme dans un jeu de miroir dans lequel il s'exerce à trouver son style, arrive à l'écriture. Il s'agissait, si je m'en souviens bien, d'un personnage marginal essayant de dire qu'il existait. Et ce qu'il faisait, c'était le dire par le biais de l'écriture, reconstruisant et même inventant une identité qu'il n'avait jamais eue, mais qui devenait certaine une fois écrite. Car le personnage ne demandait pas la parole, mais la prenait en écrivant, en inventant sa propre histoire. 22. Je prends la parole pour dire que je me souviens d'Émile Zatopek et de Georges Perec, qui écrivit un livre intitulé « Je me souviens », dans lequel aucun des souvenirs n'est inventé. 23. Je suis la mort dont je m'approche très lentement. Je suis la dernière passagère de cette caravane et l'ange noir qui nous attend tous au terme du voyage qui se termine ici. Je suis un fantôme sous le ciel nocturne d'un littoral atlantique, en face d'une vieille maison qui s'appelait São José José da Guia et qui n'existe plus. Je reçois en tant que fantôme beaucoup d'histoires, mais j'avoue que j'en transmets peu parce que le plus clair de mon temps, je le passe à écouter et à essayer de déchiffrer les éléments, souvent un peu obscurs et sans liens entre eux, qui interfèrent dans le cours normal de la lecture des messages du panneau de bois. 25. Je me souviens d'avoir déjà vécu cette scène. Tous les invités commençaient à partir, et nous, qui restions, nous ne faisions que parler à voix de plus en plus basse au fur et à mesure que la lumière s'en allait. Personne n'allumait les lampes. Moi, qui avais été l'ombre de Tabouki, je ne suis plus que l'ombre de moi-même, même si, en racontant, je peux désormais être l'ombre de n'importe qui. Je suis ton ombre. Également l'ombre, par exemple, de celui qui a dit « Cette suite d'ombres et de défunts que je suis. » 27. Le 27, c'est moi. Un homme des années 1920. J'attends toujours quelque chose d'émouvant. Des boissons fortes, une conversation animée, de la joie, une écriture brillante, un échange d'idées sans inhibition, une révolution. Jadis, j'écrivais des recueils de nouvelles, et dans chacun d'eux, il y avait une, deux, trois fictions que je préférais aux autres. Et même si ces préférences changeaient chaque jour et à chaque instant, il est arrivé un jour et un moment où je les ai capricieusement fixées dans une anthologie personnelle d'inventions remémorées que j'ai intitulée « Souvenirs inventés ».
France Culture, Lettres étrangères. Aujourd'hui, Enrique Villamatas.
Enrique Villamatas, est-ce que vous vous souvenez que dans votre préhistoire personnelle d'artiste, votre Altamira à vous, qui a commencé par des images, avant même de publier des livres, vous avez réalisé des courts-métrages?
Si, en principe, je voulais diriger le cinéma.
Oui, effectivement, au début, je voulais être metteur en scène de cinéma.
Pero es algo que lo veo como un pasado muy muy lejano ya.
Mais c'est quelque chose que je vois comme un passé lointain maintenant.
Descubrí muy pronto que no tenía el menor porvenir en el cine.
J'ai tout de suite compris que je n'avais aucun avenir dans le cinéma.
Para lo que deseaba hacer en cine, Necesitaba mucho dinero y un productor dispuesto a arriesgarlo.
Pour ce que je souhaitais faire au cinéma, j'avais besoin de beaucoup d'argent et d'un producteur disposé à risquer cet argent.
Y era imposible encontrarlo.
Et c'était impossible de le trouver.
La literatura me permitió trabajar con simplemente con lápiz y papel.
La littérature m'a permis de travailler avec simplement un crayon et du papier.
Y por tanto me llegué a la literatura por una cuestión de economía.
Et donc je suis par conséquent arrivé à la littérature pour une question d'économie.
La única película que llegué a dirigir era una brutal manifiesto contre le producteur.
Le seul film que je suis parvenu à mettre en scène, c'était un pamphlet brutal contre le producteur.
Y la primera, el primer pase de la película, el estreno, era una sala privada para unas personas.
La première projection du film se passait dans une salle privée.
Y al final de la proyección, el productor me dijo, si no he entendido mal, la película es contra mí.
Et à la fin de la projection, le producteur est venu me voir et m'a dit, si j'ai bien compris, ce film est contre moi.
Tuve que decirle que sí, que efectivamente.
J'ai dû lui dire que oui, effectivement.
Y comprendí en ese momento que no tendría nunca más otro productor.
Et j'ai compris à ce moment-là que je n'aurais jamais plus aucun autre producteur.
Enrique Villamatas, est-ce que vous vous souvenez que les premiers textes que vous avez publiés, c'était des entretiens avec des cinéastes dans une revue de cinéma, mais qu'il s'agissait de fiction, alors qu'ils se présentaient ces textes comme des textes de journalisme. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'agir ainsi, alors que vous étiez très jeune, que vous n'aviez pas encore écrit de fiction ?
Bueno, ustedes conocen seguramente a Patricia Highsmith y su personaje Ripley.
Vous connaissez sans doute Patricia Highsmith et son personnage Ripley.
Ripley siempre mata, pero mata asesina por necesidad, nunca por gusto o por placer, sino porque realmente no le queda otra posibilidad.
Ripley est quelqu'un qui tue, qui assassine, mais il le fait jamais par plaisir, il tue par nécessité parce qu'il n'a pas d'autre solution.
Y en mi caso, cuando empecé a trabajar con 18 años en esta revista de Barcelona, Fotogramas.
Et dans mon cas, lorsque j'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans pour cette revue Fotogramas.
Era mi primer trabajo.
C'était mon premier travail.
Era la revista más de moda en España en aquel momento.
C'était la revue la plus à la mode en Espagne à ce moment-là.
Era feliz de haber encontrado ese lugar en esa redacción.
J'étais heureux d'avoir trouvé une place dans la rédaction de cette revue.
Pero el primer trabajo que tuve que hacer fue traducir alguna entrevista exclusiva con Marlon Brando.
Le premier travail que j'ai eu à faire a été de traduire un entretien exclusif avec Marlon Brando. Pardon.
Comprada por la revista, porque era Marlon Brando no hablaba casi nunca en entrevistas y era una exclusiva.
Un entretien acheté par la revue parce que Marlon Brando n'en donnait pratiquement jamais.
Era una entrevista en inglés y yo no sabía traducir del inglés.
Et c'était un entretien en anglais et je ne sais pas traduire de l'anglais.
Entonces no podía decir que no podía traducirla y me dediqué a inventarla toda entera.
Et donc je ne pouvais pas dire que je n'étais pas capable de la traduire et je me suis donc consacré à l'inventer entièrement.
Y yo creo que cuando se comete un delito después el segundo delito es fácil de llevarlo a cabo.
Et je crois que lorsque l'on a commis un premier délit, le second vient tout naturellement, il est facile à conduire.
Y dos semanas después apareció en Barcelona el bailarín Nureyev.
Et deux semaines plus tard est apparu en Espagne Nureyev.
Y la entrevista me dijeron que la entrevistara en su hotel.
Et on m'a dit qu'il fallait que je fasse l'entretien avec lui dans son hôtel.
Y el problema fue que por la noche anterior encontré a Nureyev en una discoteca de Barcelona.
Et là le problème a été que la nuit précédente le rendez-vous, J'ai rencontré Rudolf Nureyev dans une boîte de nuit.
Mis amigos discutieron con los amigos de Nureyev.
Mes amis ont parlé avec les amis de Nureyev.
Y a la mañana siguiente yo no podía presentarme frente a Nureyev en el hotel.
Et le lendemain matin, j'étais incapable de me présenter à Nureyev dans son hôtel.
Entonces inventé la entrevista.
Et donc j'ai inventé là aussi l'entretien.
Et la entrevista, Nureyev, el titular de la entrevista era Nureyev decía, la danza es idéntica a los toros.
Le titre de l'interview, c'était Nureyev, la danse est identique au taureau.
Entonces Nureyev no lo leyó, dejó la ciudad y nunca supo.
Nureyev ne l'a pas lu, il a quitté la ville et il n'en sut jamais rien.
Pero en un bar de Barcelona, escuché una conversación de dos personas que leían la entrevista con Nureyev.
Mais dans un quartier de Barcelone, j'ai entendu deux personnes qui discutaient et qui évoquaient l'entretien avec Nureyev.
Y decían, has leído las tonterías que dice Nureyev.
Et il disait, est-ce que tu as lu les bêtises que dit Nureyev dans cet entretien?
Entonces recuerdo que yo me molesté profundamente al oír esto.
Et bien entendu, j'ai été très gêné, profondément gêné en entendant ça.
Es decir, que es posible que llegara a inventar sin darme cuenta. Y llegar a la ficción a través de estas entrevistas inventadas.
Et donc c'est possible que je suis arrivé à l'invention, à la fiction, sans m'en rendre compte, à travers ces premiers entretiens.
De hecho, también entrevisté a Patricia Highsmith en el Hotel Colón de Barcelona.
De fait, j'ai également fait l'interview de Patricia Highsmith à l'Hôtel Colón à Barcelone.
Y como siempre, ella nunca dijo nada especial.
Et comme toujours d'ailleurs, elle n'a rien dit de spécial
sobre su vida personal,
sur sa vie personnelle.
Y cuando volví a mi casa, inventé toda la entrevista.
Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai là aussi inventé tout l'entretien.
Continúa, pero no sigo. Pero es la historia de un criminal.
Je pourrais continuer, mais non. Je, en fait, c'est l'histoire d'un criminel.
Mais comment ça s'est arrêté?
S'arrêter à Becant, géologue anarchiste qui a passé par de la Grèce, qui a passé par Barcelone. Et je l'ai fait des questions, mais je n'ai pris. Non, tomo notas. Non.
Je n'ai pas pris de notes, en fait.
J'ai fait comme ça, j'écoute simplement. Et il a dit, je suis un politique compromis, c'est très difficile de croire que tu ne prends rien de notes. Et j'ai dit, c'est le livre. J'ai pris ce que tu dis, je l'ai lu dans ton livre. L'entretien est déjà fait. Elle a dit, ah. C'est la fin pour moi parce que c'est très difficile pour moi de seguir haciendo entrevistas parce que corrió la voix de que todas étaient inventadas.
Et donc ça s'est terminé parce que il était devenu trop difficile pour moi de faire des entretiens parce que ça s'était su.
Imagino que en Estados Unidos habría ido a la cárcel directamente.
Je pense qu'aux États-Unis je serais allé en prison pour ce fait-là.
Pero quiero recalcar la inocencia de los inicios, que son hechos por pura necesidad de sobrevivir.
Mais je veux quand même souligner l'innocence qui était la mienne au tout début de cela. J'ai vraiment fait ces entretiens par nécessité.
Il n'y avait aucune intention littéraire, mais elle est apparue au fil du temps.
Sobrevivir.
L'intention, c'était survivre.
Qui mejor me comprendió fue Anthony Burgess.
Celui qui m'a le mieux compris, c'est Anthony Burgess.
Porque fui con la entrevista hecha y se la enseñé antes de.
Parce que je suis allé le trouver avec l'entretien déjà fait et je le lui ai montré.
Y él me ha dicho fantástico porque tenía una hora contigo.
Et il m'a dit, c'est fantastique parce qu'en fait j'avais une heure à te consacrer.
Ahora tengo la hora libre.
Et maintenant cette heure est libre.
Y si quieres tomar un whisky conmigo.
Et si tu veux, on va prendre des whisky ensemble.
Et le dije que no, porque tenía mucha prisa, porque había inventado la entrevista antes.
Je lui ai dit que non, parce que j'étais très pressé, je venais d'inventer l'entretien.
Porque el periódico que me l'había encargado lo necesitaba una hora muy precisa.
Parce que le journal qui m'avait chargé de réaliser cet entretien, en avait besoin d'une heure très précise.
O sea que también había inventado por necesidad, porque necesitaban la hora, no tenía tiempo para todo.
Et donc là aussi, j'avais inventé par nécessité, parce que j'avais pas le temps. Il fallait que je remette l'entretien à cette heure fixée par le journal.
Después, jóvenes desaprensivos de todos los países han inventado entrevistas conmigo por culpa de esto.
Et ensuite, dans tous les pays du monde, des personnes sans scrupules ont inventé des entretiens avec moi.
Alors là, vous êtes témoin qu'on n'invente rien. Ces entretiens, cette première démarche un peu par hasard de littérature et de création, au fond, elle se situe dans un moment particulier de l'histoire de l'Espagne. On est encore sous Franco. À quoi ça ressemblait Barcelone et cet univers culturel dans lequel vous évoluiez, littéraire? Est-ce que c'est parce que, à certains égards, il était assez irrespirable que vous avez pris la décision, avant la chute de Franco, de venir habiter à Paris en 1973-74?
El recuerdo que tengo más, que se entiende todo, creo, lo que ocurría, es cuando, en este año del 74, cuando llegué a París.
Le souvenir que j'ai, le plus précis, qui permet peut-être de comprendre ce qu'étaient les choses à cette époque, lorsque je suis arrivé à Paris, c'était en 74.
Lo que me impresionó mucho era algo tan sencillo como esto.
Ce qui m'a le plus impressionné, c'était quelque chose d'aussi simple que ceci.
Las terrazas y las personas hablando en voz alta.
C'était les terrasses et les personnes qui parlaient à voix haute.
Primera, no habían terrazas en Barcelona. Si habían, estaban controladas.
Et à Barcelone, il n'y avait pas de terrasse. Ou s'il y en avait, elles étaient surveillées.
Y la sensación de que escuchaban lo que decías.
Et la sensación que qu'il y avait des gens qui écoutaient ce que tu pouvais dire.
La impresión de que los taxistas escuchaban también lo que decías.
L'impression que les chauffeurs de taxi eux-mêmes écoutaient ce que tu pouvais dire.
Es una forma de contar brevemente la diferencia que había en esa época entre una ciudad como París y Barcelona.
C'est une façon d'expliquer brièvement les différences qu'il pouvait y avoir à l'époque entre une ville comme Paris et une ville comme Barcelone.
Dicho de otra forma, podía ser denunciado por cualquiera en cualquier momento.
Dit d'une autre façon, tu pouvais être dénoncé à tout moment.
Que a veces en cosas tan sencillas como una terraza y gente riendo pueden ser como el detonante absoluto por el cual alguien ve la diferencia entre la represión y la libertad.
Et donc quelque chose aussi simple qu'une terrasse où il y a des gens qui parlent et qui rient, ça peut être la façon de montrer la différence qu'il y a entre la liberté et la répression.
En realidad había una alegría de vivir que era muy sórdido, digamos, en el ambiente en Barcelona.
Il y avait à Paris une joie de vivre qu'il n'y avait pas à Barcelone, où l'ambiance était sordide.
Aparentemente, ¿no?
Pero... En apparence, évidemment, bien sûr.
Néanmoins, vous êtes retourné en Espagne après 1975, quand la démocratie espagnole s'est développée. On a le sentiment que ça a été des années d'effervescence très très grande, politique bien évidemment, mais aussi culturelle. C'est l'époque où vous avez commencé à être vraiment reconnu comme écrivain en Espagne. Quels souvenirs vous gardez de ces années juste qui ont suivi la chute du franquisme?
Bueno, fui reconocido muy tarde, muchos años después de mi vuelta a España.
En fait, j'ai été reconnu comme écrivain très tard, de nombreuses années après mon retour en Espagne.
Lo que viví en la Barcelona libre y en Madrid libre era algo que ya había sido unas experiencias que yo conocía perfectamente de mi época parisina.
Ce que j'ai pu vivre donc ensuite dans Barcelone et Madrid libre, c'était des choses que je connaissais qui ressemblaient beaucoup à ce que j'avais pu vivre à mon époque parisienne.
Par exemple, en le boom del cine de Almodóvar, que es un cineasta muy interesante.
Par exemple, le boom du cinéma d'Almodóvar, qui est un cinéaste très intéressant.
Tenía un precedente que era un amigo mío, Adolfo Arrieta, que es un cineasta del que yo hablo en Paris ne finit jamais.
Almodóvar avait un précédent, qui est un ami, Adolfo Arrieta, qui est un cinéaste dont je parle dans mon livre Paris ne finit jamais.
El mundo de Almodóvar, casualmente, se parece totalmente al de Arrieta. Arrieta trabajaba en París y hacía cine underground.
Et le monde filmique de Almodóvar est un monde qui ressemble beaucoup à celui d'Arrieta. Arrieta était un cinéaste qui faisait à Paris du cinéma underground.
Adolfo Arrieta es un genio que vive ahora en Madrid y sigue siendo desconocido, en España sobre todo.
Adolfo Arieta est un génie qui vit actuellement à Madrid et qui continue à être méconnu, en tout cas en Espagne.
Y que era un personaje para mí asombroso porque llevaba el cine, él era el cine mismo, para explicarme.
Et c'était pour moi un personnage absolument étonnant parce qu'il était en quelque sorte l'incarnation du cinéma.
En aquella época, porque ahora hay cámaras por todas partes, él llevaba siempre una cámara y filmaba todo.
Et à cette époque-là, il avait toujours une caméra sur lui et il filmait tout.
Era como una cámara, un amigo que era una cámara de cine.
Il était lui-même une sorte de caméra, c'était un ami qui était une caméra.
Era un artista en todo el sentido de la palabra. Es desconocido porque él ha querido así, pero donde está Almodóvar, que es un gran cineasta, debería estar también reconocido este autor, ¿no? Por ejemplo.
Et donc il est resté méconnu parce qu'il le voulait, en quelque sorte. On devrait lui rendre hommage là où se trouve le cinéma d'Almodovar, le cinéma d'Arieta est équivalent ou même supérieur.
Todo esto lo digo porque viví experiencias en Barcelona, Madrid, que eran ya venían de antes. No,
je raconte ça parce qu'au fond, les expériences que j'ai pu vivre à Barcelone, à Madrid, c'était des choses qui venaient d'auparavant, que j'avais connues auparavant.
Lo que decía antes, que todo viene de otra cosa. Nada surge eso. Es nuevo y...
C'est ce que je disais auparavant. Tout vient d'autre chose, tout vient de choses antérieures.
Et c'est pour ça que Paris ne finit jamais, c'est le titre de ce livre que vous avez publié des années plus tard et qui revient sur cette expérience, ce moment parisien durant lequel vous avez habité une chambre de bonne que vous louiez à Marguerite Duras, rue Saint-Benoît, un personnage que l'on retrouve dans ce livre aussi. Les territoires, les villes sont aussi importantes que les écrivains, et elles sont très liées aux écrivains dans votre œuvre. Paris avec ce livre, mais vous avez aussi un livre très fort sur Dublin. Tout à l'heure, vous citiez Julien Gracq à propos de la Presqu'île. Julien Gracq, c'est aussi l'auteur de La forme d'une ville. Et dans Le mal de Montano, vous avez des pages magnifiques sur une ville qui m'est très chère, Nantes, et pour des raisons très littéraires, Jacques Vacher, André Breton, notamment. On a l'impression que vous entretenez à certains territoires, j'aurais pu citer Trieste aussi, une relation très très forte, Enrique Villamatas.
Con todos los territorios.
Oui, avec tous les territoires, en fait.
Siempre digo que soy del lugar donde estoy.
J'ai coutume de dire que je suis de l'endroit où je me trouve.
Esto explica que, por ejemplo, en Argentina, hayan dicho que era el escritor catalán más argentino de todos.
Et ça explique des choses comme le fait, par exemple, qu'en Argentine, on dit que je suis l'écrivain catalan le plus argentin du monde.
Pero en Portugal han dicho que era el escritor español más portugués de todos.
Mais au Portugal, ils ont dit que j'étais l'écrivain espagnol le plus portugais du monde.
¿Qué sucede? Que soy del lugar en el que estoy.
Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je suis du lieu où je me trouve.
Durante un tiempo, si me permiten la broma, pero es cierto.
Pendant un certain temps, si vous me permettez la blague, mais c'est vrai.
Yo tenía una teoría sobre el viaje de novios de recién casados de mis padres. Yo soy el hijo mayor.
J'avais une théorie sur le voyage de miel de mes parents. Sachez que je suis l'enfant aîné.
Y había intentado calcular en qué ciudad fui engendrado.
Et j'avais essayé de calculer dans quelle ville j'ai été conçu.
Tenía anotado todas las ciudades del trayecto.
J'avais noté absolument toutes les villes, toutes les étapes de leur voyage.
Y durante un tiempo tuve que dar una gira por España. El viaje fue por España. Y en todas las ciudades donde aparecía en público.
Et à une époque, j'ai fait une tournée des villes d'Espagne, et dans toutes les villes où j'apparaissais en public.
Decía, estoy muy contento de encontrarme en Salamanca, por ejemplo.
Je disais, par exemple, je suis très heureux de me trouver à Salamanque.
Porque yo soy de aquí, fui engendrado aquí.
Parce que je suis de Salamanque, c'est ici que j'ai été conçu.
Entonces, mi editor español me dijo, a partir de ahora, en lugar de né à Barcelone, vamos a poner Ángel André à Barcelone.
Et mon éditeur espagnol m'a dit, écoute, à partir de maintenant, au lieu de mettre né à Barcelone, on va mettre engendré à Barcelone.
C'est aussi une forme de critique de la politique des identités, surtout de la part de quelqu'un qui est catalan, dans un pays où cette identité n'est pas rien, j'imagine. Comment vous avez vécu cette identité catalane par rapport à la langue, par rapport à la culture espagnole en général?
Ha sido un problema entre partidos políticos de Madrid y de Barcelona, desde mi punto de vista, reaccionarios, que no han llegado a ningún acuerdo por falta de sentido de la negociación.
Ce que vous évoquez là est un problème de partis politiques de Madrid et de Barcelone qui ne sont pas parvenus à se mettre d'accord par manque de concertation, de négociation.
Mi primera lengua, la lengua materna, es catalán, y he hablado toda mi vida en catalán.
Ma première langue, ma langue maternelle, c'est le catalan. J'ai parlé toute ma vie en catalan.
Soy del lugar donde estoy, pero al mismo tiempo soy barcelonés en todas partes.
Je suis du lieu où je me trouve, mais en même temps, je suis effectivement barcelonais.
Y a continuación, soy catalán y soy europeo.
Et puis, ensuite, je suis catalan et je suis européen.
Y soy de todas partes. Es decir, no tengo ningún problema de identidad.
Et donc je suis de partout, je n'ai aucun problème d'identité.
Precisamente porque no sé quién soy.
Précisément parce que je ne sais pas qui je suis.
Aun así, pues la situación tampoco ha sido tan seria como parece. Creo que la solución será que dos se entiendan entre ellos, es decir, hacen negocios juntos en Madrid y en Barcelona y deberían estar de acuerdo allá en...
Et la situation est peut-être pas aussi dure qu'elle paraît. Il faudra bien qu'il y ait un accord et une négociation entre les parties, les deux parties là, de Madrid ou de Barcelone.
En mi opinión, la vida es muy dura y para los ciudadanos es durísima en estos momentos más. Y los políticos deberían facilitar totalmente las cosas en lugar de complicarlas. Para eso están y para eso les pagamos.
À mon avis, la vie est dure, elle est très dure pour tout le monde et les hommes politiques, quel que soit leur bord, devraient la rendre plus facile au lieu de la compliquer.
Je vous propose qu'on écoute un deuxième texte lu par Anne de Boissy. Cette fois, c'est le texte qui suit le précédent dans ce recueil et le texte qui donne son titre à l'ensemble du recueil, La modestie.
Il y a très longtemps que je joue les espions occasionnels dans l'autobus de la ligne 24 qui, à Barcelone, remonte la rue Mayor de Gracia. J'ai chez moi un dossier de gestes, de phrases et de conversations entendues au fil du temps sur 7 lignes d'autobus, et je crois même pouvoir écrire un roman aussi infini que celui que Joe Gould voulait faire sur New York, car j'ai dérobé et consigné toutes sortes de phrases isolées, de conversations étranges, de situations extravagantes. Un délinquant semble ces derniers temps s'être épris de 7 lignes d'autobus. Bien connu de certains passagers, il est surnommé le voleur du 24. Dès qu'il monte dans l'autobus, les passagers qui le connaissent mettent les naïfs en garde à grands cris. Attention, attention, le voleur du 24 est monté. Le voleur du 24 a déjà été arrêté à peu près 500 fois, mais il recouvre toujours sa liberté et retourne dans cet autobus où il est très célèbre. Ni une autre ligne, ni un autre autobus ne semble l'intéresser. Il doit être ravi, comme moi, de se sentir un habitué de cette ligne, ou alors il adore simplement se répéter. Il me ressemble un peu. Nous volons tous les deux dans cette ligne d'autobus. Lui vole, il est vrai, des portefeuilles, tandis que moi, je me contente de capturer des phrases, des visages, des gestes. J'ai rassemblé dans mon dossier toutes sortes de phrases entendues au fil du temps dans cet autobus qui me ramène depuis des années du travail à la maison et vice-versa. Certaines phrases sont bien sûr de meilleurs trophées de chasse que d'autres. Telle celle entendue un jour dire par une femme assise derrière moi au fond de l'autobus. Je me souviens de l'anglais et du français, mais j'ai complètement oublié le swahili. Une phrase, à mon avis, très sophistiquée pour la ligne 24. Une autre fois, un jeune homme a dit tout à coup à un autre, au moment de descendre, d'une voix très haute et très irritée que tout l'autobus a entendue, « Que ce soit la dernière fois que je te le répète. Ma mère est ma mère et ta mère est ta mère. » C'est clair ? Compris ? Parmi les multiples phrases entendues et notées, je me souviens tout particulièrement de « Je lui ai offert des magnolias et elle ne me l'a jamais pardonné. » Et de cette autre « La félicité est dans le martyr », ainsi que de celle-ci. « Si tu gagnes de l'argent avant l'âge de 40 ans, tu es perdu. » Elles sont toutes notées avec la date correspondante. J'ai un dossier grandiose qui croule sur le monde de l'autobus de la ligne 24. J'ai toujours eu l'impression que ce qui se passait sur cette ligne me concernait directement. Mes archives, comme ma vie, se sont agrandies et complexifiées. Ce qui n'a rien d'étrange, parce qu'il y a toujours eu dans les deux domaines, l'autobus et la vie, beaucoup de choses à noter. Cependant, il y a une semaine, je me concentrais sur mes pensées et je n'épiais rien du tout. Depuis bien des jours, et surtout ces derniers temps, j'ignore pourquoi, mais je délaisse tout cela. J'oublie que je suis un voleur de phrases d'autobus. Lundi dernier était l'un de ces jours. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose de tout à fait imprévu. J'étais debout dans l'autobus bondé quand une femme qui parlait dans son portable a dit derrière moi « Je vais descendre tout de suite à l'arrêt Fontana. J'ai 30 ans, mais je ne sais pas si je l'ai fait. Je ne suis ni belle ni laide. J'ai un manteau gris. Bon, à tout de suite. » Elle me tournait le dos si bien que je ne pouvais pas voir son visage à moins de faire deux pas, ce qui était impossible. Ce « je ne suis ni belle ni laide » m'est allé droit au cœur. Une phrase entendue mille fois, mais que j'écoutais maintenant différemment. Elle m'a beaucoup intriguée. Peut-on vraiment être dans l'entre-deux ? Qu'avait-il pu se passer dans la vie de cette femme pour qu'elle se valorise si peu et n'ait aucun problème à le dire à haute voix ? Aimait-elle se montrer modeste ? L'était-elle, tout simplement, sans qu'il n'y ait rien à redire ? Peut-être n'était-elle personne et n'arrivait-elle même pas à être modeste ? J'ai trouvé fâcheux de voir quelqu'un se résigner à une telle grisaille. Vue de dos, elle était toute petite, entièrement vêtue de gris, et même ses cheveux noirs semblaient devenir gris. Elle avait un sac Zara, qui aurait été pour l'identifier une donnée plus utile que ce « je ne suis ni belle ni laide ». J'ai envisagé de la suivre quand elle descendrait à Fontana pour voir qui elle retrouvait pour aller bille en tête dans le début d'un roman réel. Mais j'étais très en retard et je n'avais pas le temps de la suivre. Par ailleurs, je n'avais jamais suivi personne dans la rue et je ne me voyais pas du tout le faire. « Ton espace, c'est l'autobus », me suis-je dit. J'ai aussi pensé au livre sur Gérard de Nerval que j'étais en train de lire et je me suis remémoré une citation émouvante. « Je n'ai jamais vu ma mère. Ses portraits ont été perdus ou volés. Je sais seulement qu'elle ressemblait à une gravure du temps, d'après Prudhon ou Fragonard, qu'on appelait la modestie. Cette femme, entièrement vêtue de gris, ressemblait-elle à la mère de Nerval ? Mais pouvais-je savoir comment elle était s'il ne le savait pas lui-même ? J'étais très avide de savoir si elle n'était vraiment ni belle ni laide. J'ai attendu patiemment pour voir au moins son visage. Quand l'autobus s'est arrêté à Fontana, la femme s'est retournée brusquement vers moi et a commencé à se frayer un passage vers la sortie. Je l'ai vue, dans un premier plan parfait. Un très beau visage aux yeux verts en amande, altéré par la tristesse et la modestie, par le désespoir, dirais-je. J'ai été de nouveau tentée de descendre de l'autobus et de lui emboîter le pas pour vérifier qui elle retrouvait. Elle est descendue à Fontana. Je suis restée comme un imbécile dans l'autobus, la regardant se perdre dans la foule qui remontait la rue Mayol de Gracia. Pendant la nuit, j'ai rêvé que je retournais chez moi par le 24 et qu'un autobus de cette même ligne qui précédait le mien, ils étaient en fait collés l'un à l'autre, roulait si vite qu'il finissait par s'encastrer dans la station Fontana. Instinctivement, heureux d'être sain et sauf, parce que j'étais dans l'autobus derrière, j'ai regardé si la femme qui m'accompagnait sans rien dire l'était aussi. Elle l'était. C'était la modestie en personne. La femme vêtue de gris que j'avais vue quelques heures auparavant, elle était avec moi, saine et sauve. C'était elle, elle avait toujours son sac Zara. Et ses yeux semblaient maintenant plus tristes, encore plus en amande, plus irrésistibles que la première fois que je l'avais vue. Je n'ai pas voulu accorder une grande importance au rêve, même si je savais qu'il y en avait sûrement une. Et je suis allée travailler. Il y a plus de 20 ans que je travaille à la Fondation Rougemont de Barcelone, où j'occupe actuellement un poste important. J'ai eu de la chance dans la vie, je n'ai pas à me plaindre. Ma situation économique ne pourrait être meilleure et je considère que je peux me sentir fière de ma femme et de mes 3 enfants. Je passe mes week-ends en famille à Saint-Hilaire-des-Sacalmes, où se trouve notre résidence secondaire. C'est toujours moi qui conduis, parce que j'ai besoin de me détendre en conduisant. Et en plus, j'aime bien rouler. La voiture me semble parfois le symbole de ce que j'ai obtenu. Je suis très prétentieux. Mais pratiquement personne ne le remarque parce que je me réprime le plus possible. Ce qui me pousse sûrement à rouler autant quand je sors de Barcelone. Et si je roule autant, c'est peut-être tout simplement parce que d'une façon ou d'une autre, j'ai besoin d'extérioriser sans gêner personne, de façon privée, l'orgueil que je ressens vis-à-vis de tout ce que j'ai obtenu dans la vie. Et ce n'est précisément pas dans l'autobus que je vais le faire, qui est toujours pour moi, par chance, un bain d'humilité en définitive très utile pour ne pas finir par devenir l'être le plus vaniteux de la Terre. Mais je me réprime beaucoup. Dans l'ascenseur avec les voisins, par exemple. Quand je monte dans l'ascenseur, j'adorerais pouvoir leur raconter mes grands faits, qu'ils sachent comme tout va bien pour moi. Dans quelques semaines, je vais recevoir à Paris une médaille de l'Ordre du Mérite pour mon travail. Parfait, mais je n'en dis rien. J'aimerais toutefois pouvoir le dire, le crier en ce moment même à tous les habitants de l'immeuble. Enfin, j'ai rêvé de l'autobus accidenté. Peut-être un rêve lié à ma frustration de ne pas avoir pris la décision la veille de suivre dans la rue la femme aux vêtements gris dont, à son insu, la tristesse et la modestie m'avaient tourmentée. Puis, au bureau, je n'ai pas pu la chasser de mon esprit. Dans la soirée, au retour du travail, il m'est arrivé dans l'autobus quelque chose de tout à fait imprévu. À l'arrêt Fontana, il y avait un vieil handicapé qui attendait pour monter dans son fauteuil roulant. Et le chauffeur a immédiatement mis en branle les longs mécanismes de la rampe pour que l'homme puisse monter dans le véhicule. Mais la rampe n'a pas bronché, peut-être parce qu'elle n'était pas très souvent utilisée. Après 5 minutes d'incertitude, tout le monde a dû descendre de l'autobus parce que le véhicule était endommagé sans que l'on sache si c'était à la suite de la tentative d'installer la rampe ou simplement par hasard. Mais tout le monde a dû descendre et attendre l'autobus suivant. Je me suis dit qu'il y avait un certain parallélisme entre cette situation et celle du rêve de la veille. Il y avait aussi un premier et un second autobus. Le premier avait eu un accident et, comme si c'était trop peu, tout s'était passé devant l'arrêt Fontana. Il n'empêche que la panne m'a remis clairement en mémoire le souvenir de la femme aux yeux tristes en amande du soir précédent. Je l'ai cherchée, je ne pouvais pas m'en empêcher. La femme grise m'avait beaucoup intriguée en se définissant comme ni belle ni laide. Je l'ai cherchée dans la foule, mais elle n'avait apparemment pas laissé de traces. J'ai refait la même chose le mercredi et le jeudi. Le vendredi, je suis allée déjeuner avec quelques camarades de la Fondation dans un restaurant proche des Ramblas. Beaucoup de gens s'étaient attroupés autour de ce qu'on appelle des statues vivantes. Il y en avait une du Che Guevara qui triomphait tout particulièrement, mais toutes les autres retenaient également l'attention des touristes. Une seule, incroyablement discrète, n'avait pas de public, car elle était à peine perceptible comme inexistante, d'une immobilité absolue. J'ai même failli la heurter parce que je ne l'ai vue que lorsque je l'ai eue juste devant moi. Il s'agissait de la représentation d'une mendiante. Elle portait une robe de panne grise en haillons qui arrivait jusqu'au sol, où il y avait une timbale également grise pour les pièces de monnaie. « C'est la modestie », ai-je pensé, étonnée. Le lendemain, sous prétexte qu'il pleuvait, je ne suis pas partie en week-end. Et le dimanche matin, c'est-à-dire hier, quand le soleil est revenu, j'ai emmené ma famille voir une exposition de Fragonard dans un musée sur les hauteurs de Barcelone. J'ai pensé que je pourrais y tomber sur quelques pistes qui me permettraient de vérifier, si jamais elle existait, où se trouvait la modestie, la gravure de l'école de Prudhon ou de Fragonard dont parlait Nerval. Et je me suis dit aussi que c'était une façon de me sentir, d'une certaine manière, proche de la femme grise. « Quand est-ce que tu reçois ta médaille ?» m'a demandé mon fils aîné à brûle-pourpoint. Il a 17 ans. Il croit encore en moi. Et sur le moment, je n'ai pu réprimer un fort sentiment d'orgueil vis-à-vis de lui. Et pourquoi ne pas l'avouer, de la médaille que j'allais recevoir. Puis, presque aussitôt, j'ai eu honte de ma réaction vaniteuse. Et pour me racheter, j'ai redoublé d'efforts afin de trouver quelques pistes concernant la gravure. Dans la librairie du musée, je suis tombée sur un livre relatif à l'école de Prudhon et je n'ai pas hésité à l'acheter immédiatement. Il n'y avait aucune reproduction de la gravure que je cherchais, mais j'ai vu qu'elle existait. Elle était de l'école de Prudhon et il y avait suffisamment d'informations pour la chercher sur Internet. À la maison, j'ai, avec l'aide de ma fille aînée, trouvé sur Google une photo de la gravure. La modestie, cette figure en laquelle Nerval croyait voir sa mère, était une belle femme. Je crois que je suis tombée amoureuse de cette représentation car j'ai toujours dans mon portefeuille la photocopie que ma fille en a faite. Aujourd'hui, lundi, au retour du travail, j'ai entendu dans l'autobus une femme dire à quelqu'un qui parlait dans son téléphone portable « Ce n'est pas ça, mais tu es très très près, presque à côté. Je t'aime, tu es le meilleur du monde. » J'ai cru qu'elle s'adressait à moi. Je me suis retournée et ma déception a été immense. Non parce que les phrases ne m'étaient pas adressées, mais parce que cette femme ne ressemblait en rien à celle que je cherchais et dont je n'avais que l'image dans mon portefeuille. Elle parlait avec son fiancé et a continué de le faire. « Un bulbule, c'est un rossignol persan. Je croyais que tu le savais. » Elle a dit ces mots on ne peut plus bizarres, mais je n'ai même pas eu envie de les noter. C'est triste à dire, mais il me semble que la chasse aux phrases, le monde, presque tout, m'intéresse moins. D'un jour à l'autre, j'ai commencé à perdre du tonus. Comme si le chasseur ancestral qui était en moi commençait à perdre sa curiosité, l'attention nécessaire, son agilité et sa patience. Comme si je ne cherchais qu'à la croiser pour pouvoir lui dire, je ne sais pas, pouvoir lui dire mes plus modestes vérités, que je vieillis, que je ne suis plus un aussi bon chasseur de phrases, que les médailles, le monde, sauf elle, ne me disent plus grand-chose.
France Culture, Lettres étrangères. Aujourd'hui, Enrique Villamatas.
Merci Anne de Boissy pour cette lecture. J'en profite pour indiquer que ces deux textes que vous avez lus d'Enrique Villamatas sont traduits par André Gabastou, qui a traduit de très nombreux livres d'Enrique Villamatas. Chasseur de phrases, c'est une activité commune pour un romancier, ou c'est une manière pour vous de réfléchir à la relation compliquée entre l'activité littéraire et le monde, et au fond de vous moquer un petit peu de ces écrivains qui ont une relation un peu simpliste et mimétique vis-à-vis du monde?
Bueno, es verdad que escucho frases en el autobús, continúo escuchándolas.
C'est vrai que j'écoute les phrases qui sont prononcées dans les autobus, et je le fais encore.
Y que con el paso del tiempo debo decir que cada vez me parecen más raras todas las que oigo.
Et au fur et à mesure que le temps passe, je dois dire qu'elles me paraissent de plus en plus bizarres.
Porque a veces se decía que yo decía cosas, frases raras.
Pero parfois on disait que moi je disais des phrases bizarres, mais.
Y con el tiempo he empezado a pensar que todo el mundo dice cosas extrañísimas.
Et avec le temps, j'ai fini par penser que tout le monde dit des choses extrêmement étranges.
Quel rapport vous entretenez comme écrivain à ce qui apparaît comme le monde extérieur? Parce que vous avez tendance à dire il y a la littérature et puis il y a le monde extérieur, et que vous êtes en quelque sorte requis par la littérature, par cet engagement littéraire qui ne vous laisse place pour rien d'autre.
Creo que está sospechando que literatura y vida están bastante unidas en lo que hago.
Il me semble que vous soupçonnez que la littérature et la vie sont assez unies dans ce que je fais.
Así que creo que le voy a complacer.
Et donc je crois que je vais vous faire plaisir.
Hace un mes me encontraba en llevaba dos días encerrado escribiendo en casa sin haber salido.
Il y a deux mois à peu près, je me trouvais à la maison. Ça faisait deux jours que j'étais resté enfermé sans sortir.
Encerrado en un relato, en una historia.
Enfermé en fait dans un récit, dans une histoire.
Et al tercer día salí a la calle a comprar el periódico.
Et le troisième jour, je suis sorti pour acheter le journal.
Esperaba como peatón para cruzar una calle.
J'attendais un carrefour pour pouvoir traverser la rue.
Y un señor que estaba al lado que no conocía de nada me dijo: ¿Usted entiende la filosofía?
Et, Et un monsieur qui était à côté de moi, que je ne connaissais absolument pas, tout à coup m'a posé cette question. Est-ce que vous y comprenez quelque chose en philosophie ?
La impression que tuve era la de que todavía no había salido de mi estudio.
Et l'impression que j'ai eue à ce moment-là, c'est que j'étais encore resté enfermé dans mon cabinet de travail au cours des jours écoulés.
Pero si lo cuento aquí es porque realmente este hombre me dijo esto, me preguntó esto.
Mais si je raconte ça, c'est que vraiment cet homme m'a posé cette question, il m'a vraiment demandé ça.
Entonces pensé que hay personas que hablan como en mis relatos, que hablan como en mis cuentos.
Et donc je me suis dit qu'il y a des personnes qui parlent comme les personnages de mes récits.
En todo caso, creo que estaba más loco que yo, sin duda.
Et de toute façon, je pense qu'il était plus fou que moi, enfin, sans aucun doute.
Porque en un intento de razonar, le dije, usted me pregunta esto porque sabe que yo escribo, ¿no?
Et parce que dans une tentative de rationalisation, je lui ai répondu, mais vous me posez cette question parce que vous savez que j'écris, n'est-ce pas?
Dijo, no, no sabía que escribía.
Et il m'a dit, non, je ne savais pas que vous écriviez.
Ahí, à partir de ahí, ya me perdí, ¿no?
Et à partir de là, j'étais perdu.
Entonces yo le dije, antes de cruzar, la filosofía habla de las cosas más corrientes, de las que más nos preocupan a los hombres.
Et donc, avant de traverser la rue, je lui ai dit, bah, écoutez, la philosophie, c'est quelque chose qui parle des choses les plus courantes qui nous concernent.
Las dicen diferentes sabios a lo largo de la historia de diferentes maneras.
Et ces phrases, elles sont prononcées par différents sages ou savants au fur et à mesure que l'histoire avance, et ils le disent de différentes façons.
Pero es muy sencilla de comprender.
Mais c'est très facile à comprendre.
Et il me dijo, merci beaucoup.
Et bueno,
me dijo gracias.
Et il m'a dit merci beaucoup.
Y se marchó.
Et il est parti.
Por explicar que en muchas ocasiones las relaciones que establezco con lo que hago están unidas con lo que me ocurre, tiene relación con lo que escribo.
C'est une façon de vous expliquer que très souvent ce qui m'arrive dans le réel est en fait très lié à ce que j'écris.
En ocasiones, por ejemplo, hay una historia en la Vie imaginaire de Marcel Schwoff. Las vidas imaginarias. Sí.
Il y a une histoire, un récit dans les vies imaginaires de Marcel Boff.
Está la historia de Petronio. Petronio, la versión de vidas imaginarias de Petronio es que Petronio no murió, no se suicidó.
Il y a une histoire de une vie de Petronio et ce qui est raconté dans les vies imaginaires, c'est que Petronio ne s'est pas suicidé.
Él escribió una serie de aventuras con su criado.
Il a écrit une série d'aventures avec son valet.
S'est escapé de Néron.
Il a échappé, il a fui Néron.
Et se fue a vivir las aventuras que había escrito.
Et il est parti vivre les aventures qu'il avait écrites.
Entonces, en ocasiones, yo me he encontrado escribiendo los viajes que hago antes de realizarlos.
Et il m'arrive à moi parfois d'écrire les voyages que je fais avant de les avoir réalisés.
Y tengo que escribir para un periódico El País.
Et donc je dois écrire pour un journal, pour El País.
Entonces soy capaz de estar en Barcelona ayer, es decir, fui a Brón para hablar ante el público de...
Et donc je suis quelqu'un qui est capable de me trouver à Barcelone comme hier et de dire je suis allé à Brón pour participer à la fête du livre.
Habiendo visto en internet que el hotel tenía cortinas de azules.
Comme j'ai vu sur internet que l'hôtel avait des rideaux bleus,
que iba a llover por la tarde,
qu'il allait pleuvoir tout l'après-midi.
Escribí la nota sobre Brón, explicando que yo llegaba a mi habitación, desesperado.
J'ai donc écrit la note que je devais écrire sur Brón, en expliquant que je suis arrivé à mon hôtel totalement désespéré.
Desesperado cuando tocaba las cortinas mirando la lluvia.
Desesperé cuando j'écarté les rideaux y que je voyais la pluie tomber.
Entonces, esto lo escribí, pero ayer cuando entré en la habitación y nadie me veía.
Et donc j'ai écrit ça, mais hier quand je suis entré dans ma chambre et que personne ne me voyait,
fui honesto y miré la lluvia, toqué las cortinas.
J'ai été relativement honnête. J'ai écarté le rideau, j'ai vu la pluie.
Intenté estar desesperado como en mi relato.
J'ai essayé d'être désespéré comme je le racontais dans mon récit.
no lo conseguí.
Je n'y suis pas parvenu.
Pero esa es la diferencia entre mi vida y la literatura.
Et ça, c'est la différence qu'il y a entre ma vie et la littérature.
On a parlé tout à l'heure de votre relation au cinéma. Il y a un autre domaine avec lequel vous êtes en dialogue, ou plutôt des artistes de ce domaine avec lesquels vous l'êtes, c'est l'art contemporain. Sophie Kahl, plus récemment Dominique Gonzalez-Forster. Comment vous regardez la création dans l'art contemporain par rapport à votre démarche littéraire? On peut avoir parfois l'impression que la littérature, du fait d'une histoire, j'allais dire, très très longue et pesante, mais après tout, l'histoire de l'art est aussi longue et aussi pesante éventuellement, on peut avoir le sentiment que l'art contemporain s'émancipe plus facilement des conformismes, des formes, et qu'il est plus audacieux souvent que la littérature par rapport aux formes. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que du coup, comme écrivain, vous regardez l'art contemporain avec un peu d'envie?
Sí, con envidia.
Oui, oui, effectivement, avec de l'envie.
Hay una parte del arte contemporáneo que es una tomadura de pelo, que es una.
Il y a une partie de l'art contemporain qui est un foutage de gueule.
Pero hay otra que a mí me parece muy interesante.
Mais il y a une autre partie qui me semble très intéressante.
Hay cosas que me permiten imaginar lo que hay allí, en lugar de veo una instalación y puedo imaginar algo que. Que igual no es lo que deseaba que viera el artista.
Il y a des choses qui permettent d'imaginer au-delà de ce qui est exposé, de voir une installation et se demander ce qu'il y a au-delà de cette installation.
Me interesa mucho el hecho de que sea teórico, es decir, que no se entienda lo que ves a la primera vez.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que ce soit quelque chose de théorique, que tu ne comprennes pas immédiatement ce que tu vois au premier regard.
Naturalmente que si yo veo un cuadro de Velázquez o de Rubens, digo es que es una obra maestra, ¿no?
Évidemment, si je regarde un tableau de Velázquez ou de Rubens, je reconnais immédiatement que ce sont des chefs-d'œuvre.
Pero tiene el problema de que lo entiendo por completo. Ya no vuelvo sobre él porque lo he entendido.
Mais ce sont des toiles qui ont ce problème-là, c'est-à-dire on les comprend entièrement au premier coup d'œil, donc il n'y a pas à revenir dessus.
Mientras que cuando veo algo que no lo entiendo y me interesa y vuelvo sobre aquello. Et me permet un travail de lecteur ou de spectateur très imaginatif.
Tandis que lorsque l'on regarde une toile, enfin un objet artistique que je ne comprends pas, je reviens constamment dessus et je m'interroge sur ce qu'il.
Me pasó con por ejemplo, con el film L'année dernière à Marianne Vaz.
C'est quelque chose qui m'est passé avec le film L'année dernière à Marianne Vaz.
Cuando yo tenía 15 años, veía la película todas las tardes à la salida del colegio.
Lorsque j'avais 15 ans, j'allais voir ce film tous les après-midi à la sortie du collège.
Et entré en crise parce que pensais que non era inteligente suffisamment pour affronter la vie.
Et j'ai eu une véritable crise parce que j'ai pensé à ce moment-là que je n'étais pas suffisamment intelligent pour comprendre et affronter la vie.
Entonces obsesionado, volví a cada tarde a ver la película.
Et donc complètement obsédé, tous les après-midi, j'allais revoir ce film.
Y no acababa de comprenderla.
Et je n'ai toujours pas compris.
Durante años me interesó mucho la película porque me permitió imaginar muchas películas parecidas.
Et pendant des années, j'ai vu ce film et ce film m'intéressait parce qu'il me permettait de.
No entender es abre una puerta a otras imaginaciones.
Parce que ne pas comprendre quelque chose, c'est ouvrir la porte à d'autres imaginaires.
El guionista de l'année dernière era, como sabéis, Rolf Grillet.
Le réalisateur de l'année dernière à Marianne Vaz était, comme vous savez, Rob Grillet, le scénariste.
Le conté à Rob Grillet était à Barcelone en un dîner à Almuerzo. Le conté la que no había entendido, bueno, que había visto la película muchas veces para entenderla.
J'ai rencontré Rob Grillet à Barcelone au cours d'un repas et je lui ai raconté que j'avais vu le film de très nombreuses fois sans le comprendre.
Y él me dijo, "¿Y ahora la entiendes? ¿Tú la comprends maintenant?"
Et il m'a dit, "Et maintenant tu comprends ce film?"
Entonces esta pregunta es la pregunta. Yo tenía dos opciones, decir sí o decir no.
Alors ça c'est la question terrible. J'avais deux options, soit dire oui, soit dire non.
Opté por decir la verdad.
J'ai choisi de dire la vérité.
Si. Non, non l'entiendo.
Et j'ai répondu, non, je ne comprends pas.
Entonces, Rob Grillet fue feliz, très heureux. Rob Grillet.
Et alors, Rob Grillet a eu l'air très très heureux.
Se cuenta la historia, una leyenda china. Había un libro en el siglo XV en China.
Il y a un récit, une légende chinoise qui raconte l'histoire suivante. Il y avait un livre du XVe siècle.
Que todo el mundo decía que era un poema muy bueno, pero no se entendía.
Dont tout le monde disait que ce livre était un poème excellent, mais que personne ne comprenait.
Entonces todo el imperio chino recorrió esta leyenda de que el libro no se entendía.
Et tout l'empire chinois à ce moment-là a lu ce livre et cette légende ne se comprenait pas.
Un hombre moribundo, muy rico, pidió que le leyeran el poema antes de morir.
Et un homme qui était moribond, un homme très riche, a demandé qu'on lise le poème avant qu'il ne meure.
Le leyeron el poema y él dijo, por fin, algo que no entiendo.
Et on lui a lu le poème et il a dit, enfin quelque chose que je ne comprends pas.
Il murió feliz porque por fin había algo que no entendía.
Et il est mort heureux parce qu'il y avait enfin quelque chose qu'il ne comprenait pas.
No comprender abre puertas para mí. Y por eso el arte contemporáneo, de alguna forma, me permite ver más cosas de las que hay allí y me permite mi trabajo de lector o de espectador creativo, imaginativo.
Et donc, ne pas comprendre, ça ouvre des portes à l'imaginaire et ça me permet, moi, d'imaginer d'autres choses et d'être dans mon travail d'écrivain.
Mais vous avez conscience du fait, Enrique Villamatas, que quand vous dites ça, vous faites partie d'une infime minorité des écrivains aujourd'hui qui revendiquent cette envie de ne pas être compris d'emblée. Est-ce que vous avez le sentiment, de ce point de vue, d'appartenir à l'avant-garde, ou est-ce que c'est quelque chose qui a encore du sens pour vous, cette notion d'avant-garde?
El público aquí entiende lo que digo.
Je suis conscient que le public qui est ici comprend ce que je dis.
Y que fuera de aquí, difícilmente en Lyon me entienden.
Et que en dehors de cette salle à Lyon, on me comprend difficilement.
L'un des thèmes qui traverse votre œuvre depuis le début, c'est celle de la place difficile de l'auteur qui a tendance dans vos livres à disparaître de multiples manières, parfois suicidé, parfois évaporé. Comment appréhendez-vous aujourd'hui cette question-là, celle de l'auteur, de sa place dans la littérature, dans une époque qui est profondément bouleversée par un outil dont vous avez parlé tout à l'heure et qui vous a permis d'écrire ce texte à l'avance, qui est Internet?
La situation de la littérature peut être apparemment difficile dans les moments actuels.
La situation de la littérature peut être apparemment difficile dans les moments actuels.
Entonces, pienso que hay que escribir con la conciencia de fin de época y de etapa para la literatura.
Et donc, je pense qu'il faut écrire avec la conscience d'une fin d'époque, d'une fin d'étape pour la littérature.
Decir incluso si es necesario que ha muerto la literatura para llamar la atención.
Et de dire y compris si c'est nécessaire que la littérature est morte pour attirer l'attention.
Y a partir de ahí resucitarla, decir.
Et à partir de là, la ressusciter.
La littérature est morte, vive la littérature. Merci Enrique Villamatas. Merci à vous Georges Tiras pour la traduction. Merci Anne de Boissy pour les lectures. Et je voudrais également remercier Franck Lilin pour la réalisation, Fabien Gosset, Jean-Marie Porcher et Pascal Morel pour l'équipe de technique